VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Bamako, 17h à Brazzaville, bienvenue à notre journal. Niger, attaque djihadiste contre le camp de réfugiés de Tazalit, un centre accueillant des réfugiés maliens. Une quarantaine d'hommes lourdement armés ont mené cette attaque hier et tué 22 soldats de l'armée nigérienne. Les assaillants sont repartis avec du matériel militaire et des vivres. Selon Moussa Aksar, directeur de publication du journal nigérien L'Événement et spécialiste des questions de sécurité au Sahel, la situation géographique isolée du camp de réfugiés en a fait une cible facile. Orzouma Compaoré l'a joint à Niamey.
Au sein des populations aujourd'hui, c'est l'émotion et le total. Cette attaque surprise d'un camp isolé à la frontière nigéro-algérienne et malienne. Ce camp est mal loti parce que il est pris en tenaille entre la zone de Tassaraou, qui est une zone de prédilection de tous les trafiquants de drogue et autres trafics de tout acabit. Et de l'autre côté, vous avez les éléments, le no man's land malien, où sont réfugiés et tous les djihadistes qui écument cette région-là. Ils ont profité aux environs de 14 heures de la baisse de vigilance au niveau de ce poste avancé pour l'attaquer et prendre tout le matériel militaire pour aller encore se réfugier au Mali, où vraiment vous savez que c'est un hub du terrorisme dans cette région-là.
Alors on sait que le Niger accueille pas mal de réfugiés. Qu'est-ce qui est fait au niveau de l'État, du gouvernement pour assurer leur sécurité?
Bon, écoutez, nous avons un territoire très vaste et très difficile à contrôler. Et en plus, vous avez des réfugiés. Parmi ces réfugiés, il y a une complicité aussi, il faut le dire. On l'a vu avec les réfugiés au sud de Boko Haram, des réfugiés du Nigeria. On l'a vu aujourd'hui avec les réfugiés du Nord Mali. Et donc, parmi ces réfugiés, il y a aussi des éléments djihadistes incontrôlés qui ont infiltré ces populations réfugiées-là.
La question qui vient à l'esprit, c'est de savoir aussi si la force qui est assignée à la protection de ces camps de réfugiés, est-ce qu'elle a suffisamment de ressources pour se défendre face à ces attaques djihadistes?
Écoutez, elle n'a pas les ressources. Aujourd'hui, les ressources Niger sont limitées. Donc, les positions de l'armée nigérienne sont équipées, mais pas comme ceux des djihadistes qui s'adonnent au trafic de tout genre. Heureusement qu'il y a la présence de forces étrangères, notamment les bases américaines et françaises qui surveillent cette zone-là. Et il y a aussi cette zone de la Libye qui risque aussi de faire beaucoup mal à l'État nigérien.
Moussa Aksar, directeur de publication du journal L'Événement, à Niamey, spécialiste des questions de sécurité au Sahel. En Guinée, retour du calme à Guéquédou dans le sud du pays après les violentes manifestations d'hier réprimées par la police. Des jeunes protestaient contre les nombreux vols de motos. Eric Manirakiza.
Les gendarmes ont usé de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants qui ont incendié des véhicules. Ils exigeaient que leur soient livrés trois voleurs présumés qui étaient détenus par la police. Pour leur éviter la vindicte populaire, les gendarmes ont été obligés de les extraire du commissariat où ils étaient retenus pour les amener dans un camp militaire. D'après le lieutenant Mamadi Mansaré de la gendarmerie, la ville était en ébullition avec des milliers de jeunes qui ont tout saccagé sur leur passage. Depuis 6 mois environ, des vols d'engins à deux roues sont fréquents dans la ville. Les motos, dont plusieurs sont utilisées comme des taxis, assurent l'essentiel des déplacements dans cette partie de la Guinée.
Guinée toujours, le dialogue politique national a décidé jeudi par consensus l'organisation des élections communales et communautaires en février 2017. Le dialogue politique national lancé le 22 septembre réunit le pouvoir, l'opposition, la société civile et les partenaires internationaux de la Guinée. Les dernières élections locales en Guinée se sont tenues en 2005.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Le Burundi a entrepris de se retirer de la Cour pénale internationale, la CPI, une semaine après l'ouverture d'une enquête de l'ONU sur les violations des droits de l'homme commises dans le pays depuis avril 2015. Nous avons pris cette option de nous retirer de la CPI, a déclaré à l'AFP Gaston Simdimo, premier vice-président du Burundi, en précisant que le projet de loi en ce sens va maintenant être envoyé au niveau de l'Assemblée nationale pour adoption. Rappelons que le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a annoncé le 30 septembre l'ouverture d'une enquête visant notamment 12 personnalités du régime de Bujumbura, dont le numéro 2 du pouvoir, le général Alain Guillaume Bougnoni, soupçonné d'avoir joué un rôle dans la commission de crime depuis le début de la crise actuelle, en avril 2015 donc. Dans l'est de la RDC, des hommes armés non identifiés ont attaqué dans la nuit de mercredi à jeudi le village de Kigalama, situé à plus de 200 km de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Les assaillants y ont commis des exactions selon les habitants du village. Un témoin de cette attaque qui a requis l'anonymat explique.
Les individus qui sont venus à Kigalama à 23h, ils sont opérés jusqu'à 4h du matin de ce mercredi. Ils étaient nombreux, je ne peux pas connaître leur nombre, mais les uns parlent les Kinega et d'autres parlent les Lingala. Certains d'entre eux qui possédaient les machettes et d'autres les armes à feu. Ils ont pillé plusieurs maisons. Arrivés là où nous étions, ils nous ont torturés physiquement en demandant une somme de 500 000 francs. Ils sont partis avec tout ce que nous possédons, une somme de 280 000 francs. Ils ont incendié des maisons. Ils ont violé trois femmes. Il y avait une et une autre. On l'avait transportée dans la forêt. Elle est venue nous informer qu'elle était violée.
Un témoin de l'attaque contre le village de Kigalama en RDC. Et puis au Cameroun, au moins 500 enseignants n'ont pas rejoint leur poste dans le nord du pays à cause de leur crainte pour leur propre sécurité. Le groupe islamiste nigérian Boko Haram, dont le nom signifie « l'enseignement occidental est un péché », a trop souvent attaqué des écoles de la région. Mais les responsables camerounais assurent que la sécurité s'est améliorée. Un reportage de Moki Edwin Kinzeka depuis Maroua, rendu par John Lindon.
Le groupe Boko Haram a ciblé les écoles depuis le début de son insurrection en 2009. L'école de Tourou a été incendiée il y a 2 ans, avec plusieurs enfants tués ou blessés. Le gouvernement a rouvert les classes, mais seuls 2 enseignants sur 8 sont revenus. Nguenan Timothy se souvient de cette attaque. Lorsqu'ils sont venus ce jour-là, nous étions apeurés, nous avons fui. Maintenant, je pense que le gouvernement a pris de sérieuses mesures pour sécuriser l'école et nous permettre de faire notre travail. Cependant, beaucoup d'enseignants ont toujours peur de revenir. Bayama Kalin estime que le gouvernement devrait augmenter la prime de risque.
Vous ne pouvez pas avoir des enseignants qui ont des multiples revendications et pour lesquelles leurs employeurs ne réagissent pas même à moitié. C'est pas motivant, c'est pas du tout motivant.
Mais pour Tassan Wilfried de l'Association des enseignants du Cameroun, ce sont les enfants qui payent le prix. Nous lançons un appel aux enseignants pour qu'ils mettent toute leur énergie à l'éducation des enfants malgré les conditions difficiles de travail. Nous voyons la situation critique des enfants et leur avenir paraît sombre. De son côté, le général Jacob Kodji, commandant des troupes camerounaises, s'est voulu rassurant.
En liaison avec les autorités administratives et les responsables des enseignements de base secondaire, nous gardons un contact permanent pour voir comment pallier toutes sortes de désagréments possibles. Enfin, nous demandons les populations, les élèves, les parents et les enseignants d'être en étroite coordination et collaboration avec toutes les forces de maintien de l'ordre pour apporter tous les renseignements, les informations qui sont à leur portée afin d'assurer leur sécurité.
Midji Yawa Bakari, gouverneur de l'extrême nord du Cameroun, a lancé un appel pour que les enseignants reprennent le travail. Près de 100 000 enfants déplacés n'ont déjà pas accès à l'école et avec le manque d'enseignants, 100 000 enfants supplémentaires sont en péril.
On termine avec l'actualité aux États-Unis. L'ouragan Matthew fait rage ce vendredi en Floride. C'est le cyclone le plus menaçant de l'histoire récente de cet État du Sud, selon le NHC, le Centre américain de surveillance des ouragans. Jean-Roger Bion.
Matthew a déjà provoqué des destructions monstres dans le pays le plus pauvre de la Caraïbe, Haïti. L'ouragan est classé en catégorie 4 sur l'échelle de Saffir-Simpson, qui en compte 5. C'est le plus puissant ouragan touchant cette zone depuis des décennies. Il y a un risque d'inondation meurtrière en Floride. Géorgie et Caroline du Sud a mis en garde le NHC. Dans ces 3 États, le président Obama a déclenché un plan d'urgence fédéral permettant de mobiliser davantage de ressources. La puissante dépression a fait plus de 300 morts dans le département sud d'Haïti, a indiqué jeudi à l'AFP son sénateur Hervé Fourcan.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.